la parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier. La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.
Bonjour, bonjour Stéphane.
Bonjour.
Aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens qui habitent en France vivent en ville. C'est à peu près le taux de citadins est de 90% en France. C'est élevé. La région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur n'échappe pas à cette tendance. Pour autant, il y a quand même une partie non négligeable de la population française qui vit en milieu rural. Donc, ça fait 10%. Fort de ce constat, Stéphane, vous avez ouvert, vous nous préciserez quand, une galerie qui s'appelle la Galerie Territoire Partagé à Marseille, donc je précise en centre-ville. Mais c'est pas pour ça que vous êtes ce soir invité à Grain de Causette. C'est parce que vous avez démarré une activité qui est très intéressante, dont on va essayer de parler ce soir. C'est la galerie ambulante, dont la raison d'être, la mission principale est de se déplacer dans les territoires éloignés, les territoires ruraux, éloignés des offres culturelles et artistiques des centres métropolitains. Je suis content de vous accueillir. Pour démarrer, je voudrais juste rappeler aux auditeurs que vous avez un parcours intéressant. Vous avez été formé aux Beaux-Arts de Marseille, donc vous êtes à la base, vous êtes artiste. Et donc, ma question, comment de ce statut de plasticien initial, vous est venue l'idée d'abord d'ouvrir la galerie et ensuite de lancer cette activité de galerie ambulante?
Donc, je vais commencer par d'abord la galerie ambulante, parce que c'est le premier projet qui a vu le jour, quoi. Donc, en fait, c'est tout simple, hein. Quand je suis sorti de l'école d'art, en fait, j'ai voulu partir à la rencontre des publics et surtout partir au bout de la région, voilà, pour des questions aussi familiales, parce que mes grands-parents étaient piémontais, donc derrière la vallée du Cara. Donc en fait, j'ai acheté un véhicule utilitaire, un trafic, quoi, que j'ai transformé en micro-lieu d'exposition. Et donc à partir de ce projet, donc mon premier parcours, c'était de partir 20 jours dans la vallée du Cara. Alors par contre, en ce qui concerne le contenu, quoi, j'ai voulu de suite travailler avec une institution. Et donc, le hasard a fait que j'ai rencontré le directeur de l'époque du Fractaca, Eric Langeur. Et ensemble, on a décidé de choisir le contenu d'une œuvre que j'allais présenter aux différents publics. En fait, je suis parti un petit peu comme ça à l'aventure parce qu'en fait, j'ai prévenu personne. Donc, j'ai pris mes affaires, j'ai pris l'œuvre. Et donc, je suis allé taper aux portes des écoles en me présentant et en présentant le projet. Et j'ai été accueilli par toutes les écoles de la vallée. Donc à cette époque-là, il y avait 9 écoles dans toute la vallée. Et donc ça a été la première expérience pendant 20 jours de voir toutes les écoles. Et puis je me suis aussi positionné sur les places de village à des moments un peu stratégiques. Hein, où il y a souvent des villages où il y a 200 habitants, voire 300 pour le plus peuplé. Et de se positionner soit le matin parce que il peut y avoir un tout petit marché ou alors à la sortie de l'école pour attraper en fait les habitants de la vallée. Voilà, ensuite le second projet de la galerie Territoire Partagé est arrivé en 2005. Donc là c'est dans le quartier de la Plaine et donc là j'ai un ami qui m'a interpellé en me disant qu'il y avait une librairie qui vendait des livres d'occasion qui fermait et je pouvais récupérer le local. Donc là l'idée ça a été de récupérer un lieu. Alors aujourd'hui, on appelle ça des artistes run space, quoi, des lieux gérés par des artistes. En fait, c'est le projet qui m'intéressait, c'est-à-dire que d'inviter des artistes et de parler avec eux de leur démarche artistique, et puis s'installer dans le lieu comme dans un atelier, et puis après de présenter le travail avec un vernissage et une exposition. Et là aussi, la démarche a été aussi de dire que ce lieu en fait s'installe et vit dans un quartier avec des gens. En touchant les écoles, les habitants, et que voilà, ils prennent vie, ils prennent place un peu comme un commerce de proximité, une boulangerie, une boucherie, qu'il ait une place de vie avec les gens. Voilà, donc c'est le point de départ des deux projets.
Merci Stéphane. Donc l'activité de la galerie, c'est 2005, galerie territoire partagé, c'est 2005, mais la galerie ambulante, c'est antérieur, c'est quelle année?
C'est 2000.
2000, donc c'est 5 ans avant. Le FRAC, c'est un acronyme qui veut dire Fonds Régional d'Art Contemporain. Le FRAC est lui-même domicilié à Marseille. Quand on vous écoute, la notion de, oui, de proximité à la population est un point important. Et en tout cas, au départ, on a l'impression que les choses se sont, disons, organisées de manière, alors peut-être pas organisées, mais c'était très spontané. On a l'impression que vous êtes un forain, vous arrivez sur la place et puis vous attendez le chaland. Et donc, est-ce que c'est juste une impression subjective ou ça a été un peu l'impulsion de départ que vous avez donnée à ce projet?
Oui, c'est vraiment ça, quoi. Parce que bon, après il y a, comment dire, bon, il y a mon caractère, hein, de partir, un peu tête baissée, et de, qui est une part aussi d'imprévu, d'expérimentation. Et puis aussi, dans ma formation à l'école, voilà, j'avais vu aussi toutes les périodes des années 60, 70, des nouveaux réalistes, tout ce qui s'était passé aussi sur New York, donc des choses aussi où en fait. On récupérait des friches, et pour moi, le récupérer un véhicule et d'en faire un lieu itinérant d'art contemporain, l'art urbain qui parle en milieu rural, pour moi, c'était, voilà, c'était spontané de partir et aussi de, pas de faire comme cette période, mais de, voilà, de m'en inspirer, quoi. Et puis, à cette époque, à Marseille, il y avait les anciens abattoirs, c'était la première friche avant la friche Abel de Mai, où, en fait, voilà, il y avait des plasticiens qui étaient là dans les fins des années 80, très accueillants et qui aussi avaient une énergie qui a aussi donné envie pour développer le projet de la gare ambulante. On peut dire que c'est quelque chose de très spontané pour le départ, quoi.
Merci beaucoup. À quel moment, parce en fait, le Grain de Causette s'adresse beaucoup aux professionnels de la culture qui travaillent dans les collectivités territoriales. Et donc, la question qu'on se pose, après cette impulsion initiale, le moment d'articulation avec les collectivités, le moment où le projet s'institutionnalise ou bien il se consolide, à quel moment de quelle manière ça vient, quel moment les collectivités, les services des communes, vous voyant venir peut-être de manière épisodique ou régulière, vous sollicite en vous demandant peut-être de contractualiser les relations, commencer à ordonner de manière plus régulière votre itinérance.
Alors là, comment dire, je répondrai sur, comment dire, il y a deux temps. C'est-à-dire que concernant les communes, la première année, donc j'ai fait des courriers pour les solliciter, annoncer ma venue. Donc et puis sur la ville de Marseille aussi, je m'installais sur des places de village, donc je demande des autorisations. En fait, concrètement, j'ai jamais eu de retour en fait de tous ces courriers. C'est-à-dire que pour l'institution, concrètement, c'est mon lien, il est simplement directement avec, que ce soit des groupes scolaires, collèges ou lycées, quoi, directement avec l'administration. Par contre, l'institution, elle s'est positionnée après pour soutenir l'action, on va dire, financièrement. Mais concrètement, sur le déplacement, le choix du territoire, en fait, c'est moi qui me suis positionné, qui fait le choix de la vallée du Queyras. Et ensuite, on va dire d'une forme de bouche à oreille et de rencontre imprévue, le parcours s'est étendu sur le territoire.
J'ai une question concernant la vallée du Queyras. Est-ce que, en quelques mots, on peut la décrire? Quelles sont ses caractéristiques principales?
Alors la vallée du Queyras, c'est très particulier par rapport à la région. C'est-à-dire que c'est une des rares vallées où l'hiver, en fait, c'est une vallée qui est en cul-de-sac. C'est-à-dire que dès qu'on rentre dans la vallée, c'est une vallée qui est longue de 30 km. Et donc l'été, on peut sortir de cette vallée par deux cols, le col Agnel et le col Isoard. Donc le col Isoard rejoint Briançon et le col Agnel, on rejoint directement le piémont italien. Et l'hiver, en fait, tout est bouché. Et c'est une vallée qui, jusque dans les années, on va dire, 70, c'était très agricole, avec une agriculture en fait d'élevage, culture de céréales, et bien sûr, après une vallée aussi qui s'est installée dans le tourisme d'été et surtout de sports d'hiver, qu'on appelle les stations villages, c'est-à-dire que au cœur de ces villages, en fait, il y a un départ d'un téléski, pardon, d'un télésiège qui amène jusqu'à près de 1000 mètres et qui dessert après un petit domaine de ski. Donc ça, c'est très spécifique de la vallée du Queyras, c'est-à-dire que là-bas, en fait, les populations vivent souvent de deux métiers, c'est-à-dire d'agriculture et après d'un métier de saisonnier en lien directement avec la montagne. Donc en fait, moi, ce que j'ai découvert, ben, c'est pas une vallée enclavée, mais quand même une vallée où on peut dire qu'il y avait des similitudes par rapport à des territoires de Marseille où en fait souvent ben, des familles ou des enfants restent enclavés dans leur quartier. Là, on va dire que ben, il y avait un peu un enclavement dans leur vallée pour des questions aussi de métier et puis de manque de moyens, quoi. Donc moi, j'ai voulu aussi aller voir ce territoire pour ça, quoi. C'est-à-dire une vallée magnifique, belle, mais aussi où on pouvait être prisonnier de cette beauté, mais pour d'autres raisons. C'est-à-dire qu'un développement de vie bloqué par le fait d'avoir un troupeau, d'être assigné à résidence tous les jours pour faire vivre, on va dire, cette agriculture. Après, les choses se sont aussi un peu modifiées concrètement parce que le tourisme a pris un peu le dessus. Aujourd'hui, je veux dire, on compte les troupeaux, quoi. Je veux dire, c'est peut-être qu'il y a encore deux, trois troupeaux de vaches. Mais voilà, le tourisme a pris le dessus. Et puis, il y a une vraie question. Ben, c'est-à-dire que la neige est de plus en plus rare, donc des questions de reconversion aussi. C'est-à-dire que la galère ambulante, c'est un projet artistique. Moi, j'y vais pour des questions bien précises. Mais j'ai été pris aussi ben, par l'observation, les discussions, le constat social et économique. Donc en fait, il y a eu pour moi aussi ben, la connaissance d'un territoire et avec toutes ces années, 22 ans, c'est-à-dire aussi de voir aussi les choses se modifier dans le paysage, dans l'institution aussi. Et ces écoles ont été aussi rattrapées par la mondialisation, c'est-à-dire que quand j'ai découvert les écoles, c'était des écoles à classe unique, avec du mobilier du Queyras, des meubles sculptés. Pour moi, c'était un peu le paradis, quoi, de voir autre chose que des écoles de Marseille. Et petit à petit, bah, on va dire que l'institution est venue s'emparer de ces modes d'enseignement. Et aujourd'hui, on est sur des schémas où on veut imposer un peu un collège unique qui partirait de la maternelle au collège et que les enfants prennent un bus pour aller tous dans le même bâtiment et que les villages perdent tous leurs écoles.
Merci Stéphane, c'est intéressant parce qu'on mesure 20 ans, c'est une génération, donc on mesure le recul et l'expérience que vous avez. Et justement, donc c'est parti d'une initiative individuelle, à quel moment et de quelle manière, plutôt à quel niveau, les collectivités interviennent? Parce que l'association est domiciliée à Marseille, mais le travail, une partie de l'activité se fait donc dans les territoires alpins. Est-ce que les collectivités concernées par la galerie ambulante financent, et si elles financent, à quel moment et à quel niveau elles se sont mises à s'impliquer un peu sur le projet et quels intérêts elles y trouvent si elles ont à un moment donné pu formaliser les choses avec vous?
Alors sur l'institution et le fait d'avoir eu un rapprochement sur le financement, on va dire c'est des choses qui sont faites assez lentement. C'est-à-dire que concrètement aussi, ça a été une question aussi de rencontre, de chargé de mission et aussi concrètement un regard qui a changé parce qu'au début, quand ce projet a démarré dans les années ben, en 2000 quoi. Que ce soit le travail sur Marseille ou en région, de développer des ateliers de pratiques artistiques, que ce soit dans les quartiers populaires de Marseille ou en milieu rural, on va dire que on peut utiliser ce mot, c'était pas tendance, c'était pas la mode, quoi. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est-à-dire que moi j'étais peut-être un petit peu taxé de travailleur social, quoi. Moi, ça me dérangeait pas, mais c'est-à-dire que on va dire que les ateliers de pratiques artistiques n'étaient pas à la mode, pas autant développés qu'aujourd'hui. Donc en fait, on va dire qu'il y a eu un vrai basculement il y a une dizaine d'années sur le regard bienveillant en fait du ministère de la Culture avec une chargée de mission et la région pareil. Donc on va dire que ce sont ces deux institutions qui se sont peut-être rendues compte de ce qui se passait et que les choses ont pu aussi se modifier. Alors il y avait toujours à côté le travail avec le FRAC qui a duré. Une collaboration qui a duré à peu près 7 années. Et après, cette collaboration s'est décalé avec la ville d'Arson en voulant continuer la collaboration avec l'ancien directeur, Éric Mangeon, pour des questions d'affinité et d'amitié assez fortes. Et donc, je dirais que les choses se sont faites petit à petit et dans une forme de logique, quoi. Mais c'est vrai que concrètement, sur les territoires touchés, que ce soit le 05, département des Alpes-Maritimes, il n'y a pas de. On va dire que, comme moi, je ne suis pas domicilié là-bas, c'est-à-dire que ça, on peut dire que ça ne les intéresse pas. Mais moi, après, ce que je trouve de logique, là, aujourd'hui, dans l'analyse du budget et des partenaires institutionnels qui financent ce projet et qui sont à mes côtés, je trouve ça logique que la région et le ministère de la Culture soient là. Voilà, après, moi, je suis pas dans une démarche d'aller chercher aussi d'autres partenaires financiers, mais on va dire que pour moi, la logique aujourd'hui, elle est bien. Il y a un travail d'écoute, d'échange. Et que les choses se sont faites naturellement, quoi.
Donc, pour résumer, parce qu'on a évoqué le 05. Donc, le 05, c'est les Alpes de Haute-Provence, ce sont les Alpes de Haute-Provence. Les Hautes-Alpes, pardon. Alors, 05, les Hautes-Alpes. Et les Alpes-Maritimes, c'est le 06. Et la Villa Arson, c'est une école nationale supérieure sous tutelle du ministère de la Culture qui se situe à Nice. Alors, si je comprends bien, en fait, c'est simple. Vous êtes parti sur dans la vallée du Kera et les financements en fait proviennent essentiellement de la DRAC, service déconcentré de l'État, et de la région, et finalement les collectivités qui bénéficient du travail ne financent pas le projet, mais c'est pas choquant dans la mesure où, si je suis bien ce que vous m'avez dit, Stéphane, ce que vous nous avez dit, c'est qu'en fait, quelque part, vous considérez que c'est des missions de service public quasiment que vous remplissez. Du coup, ça, c'est vrai que c'est pas choquant que les institutions, les collectivités publiques un peu plus centralisatrices soutiennent en premier lieu le projet. J'ai une question qui me taraude depuis un moment. Est-ce que cette expérience qui tient, parce que dans le temps, 20 ans, c'est pas rien, il faut énormément d'investissement personnel, parce que vous faites ça tout le temps, tout au long de l'année. Est-ce que ce type de projet qui est quand même très très lié à votre engagement personnel est duplicable, parce que on a évoqué une certaine forme de solitude, vous avez évoqué ça aux prémices de l'activité, l'éducation artistique et culturelle était peut-être pas mise en avant comme elle peut l'être aujourd'hui. Aujourd'hui, les choses ont un peu évolué, mais est-ce qu'on peut dupliquer une expérience comme la vôtre? Est-ce qu'on peut élargir son échelle et imaginer que avec différents clones de Stéphane Guglielmet, différentes camionnettes aménagées en galerie ambulante, on pourrait développer ce projet sur différents lieux éloignés en région.
Alors moi je suis pas contre. Hein. Je vais parler pour moi un peu comment ça se passe. Après sur le projet de la galerie ambulante, bon c'est spécifique à une personne, à un artiste et à son énergie, sa volonté. Après les choses, oui elles peuvent se démultiplier. Alors, pour le projet de la gare ambulante, c'est quelque chose d'assez personnel, quoi. Donc, c'est-à-dire que, en fait, les choses, sur ce projet, j'ai ma vision du projet. Je rencontre le ou l'artiste, ensemble, on monte le projet, puis je pars à la rencontre, des différents publics. Donc, les choses peuvent se démultiplier. Donc, il y a des choses qui existent, hein, comme le Beaubourg mobile ou autres, qui sont à d'autres échelles. Mais je dirais que, pour faire une comparaison, peut-être, c'est un peu ce qui se passe avec les différents lieux culturels associatifs sur Marseille. Chacun a son identité, son projet, sa façon de faire, de voir. Voilà, moi, la mienne, elle est quand même sur... Je dis pas que c'est la meilleure, hein, je dis juste que c'est ma vision, c'est-à-dire que moi, je veux partir à la rencontre des gens. Et aussi que l'art soit accessible pour tous, que les pratiques aussi, elles soient aussi déclencheurs de choses dans la vie des gens, qu'ils puissent s'emparer de pratiques artistiques et que ça puisse aussi modifier leur quotidien. Donc tout le monde est libre, il y a de la place pour moi pour tout le monde, quoi. Mais après, si je vais plus loin dans la question, ce projet, il s'arrêtera avec moi, quoi. C'est-à-dire que concrètement, j'ai pas envie de le démultiplier parce qu'après, il perdrait aussi l'essence et le projet de l'association Arcessible qui porte donc ces deux projets où je trouverais que ce serait pas dans une logique d'avoir deux, trois fourgons comme ça et un peu comme le On charge son courrier le matin et on part faire sa tournée. Donc voilà, il faut que des jeunes aient envie de le faire. Après, c'est des sacrifices aussi, mais c'est des bons sacrifices. C'est-à-dire que c'est aussi très fatigant parce qu'on est tout le temps en mouvement, en geste, mais c'est une bonne fatigue. Ça rejoint aussi le fait pour moi d'avoir une mission de service public aussi, pourquoi pas. Mais je ne sais pas si je réponds clairement à la question, mais les choses, elles peuvent se démultiplier. Mais sur ce projet, c'est un projet un peu unique, parce que c'est un peu, quoi, moi, j'estime que c'est un projet artistique, parce que ce véhicule, c'est un peu un ovni. Il a été aussi façonné, de façon artistique. C'est un artiste qui invite d'autres artistes et qui part à la rencontre des gens et qui montre l'œuvre et l'art du bout des doigts. Donc c'est bien qu'il y ait un début, c'est bien qu'il y ait une fin. Et puis l'itinérant et l'ambulant est à la mode pour plein de choses, que ce soit l'alimentaire, le service à la personne et autres. Donc peut-être que c'est l'avenir aussi de demain de développer le théâtre, la danse, les arts plastiques et toute forme d'art de façon ambulante, quoi.
Merci. Non, mais c'est très intéressant. Ce que je comprends, ce que je retiens en tout cas, c'est que c'est du sur-mesure et puis c'est surtout une aventure artistique et humaine. Donc, il y a des questions de transmission en fait. On pourrait, en fait, ce que vous attendez, c'est que peut-être, ce qui serait bien, c'est que ça provoque des vocations chez d'autres personnes, des artistes de préférence ou des acteurs engagés dans le milieu associatif culturel. Mais la vision des choses qu'est la vôtre ne peut que susciter des vocations. Voilà, ça va pas devenir une entreprise, galerie ambulante, c'est plus une aventure. J'ai une dernière question concernant le fait que, au bout de 20 ans de travail sur ces territoires, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas de financement local, mais est-ce que, il y a des collectivités des communes bénéficiant de votre activité, se sont à un moment donné appropriées ou inventer un modèle culturel local, peut-être avec l'ouverture d'ateliers de pratiques artistiques, en se disant bah, la galerie ambulante vient, mais c'est un peu ponctuel, est-ce qu'on ne peut pas pérenniser une activité, même saisonnière? Est-ce que ce genre d'expérience a pu être. Est-ce que vous avez pu observer ce type d'évolution à travers votre activité localement?
Alors je donnerai l'exemple de ce qui s'est passé cette année, quoi. En fait, après le confinement dû à la pandémie, donc la DRAC a mis en place des résidences d'artistes avec le projet Rouvrir le Monde. Donc là, en fait, pour moi, il y a eu en fait une suite logique au territoire où je vais, que ce soit le Queyras ou la Velharia. C'est-à-dire qu'en fait, grâce à ces résidences, j'ai sollicité deux structures de centres d'animation, de loisirs, quoi. Et deux artistes ont pu faire 15 jours de résidence. Et donc, en fait, avec le projet de la galerie ambulante, il y a quand même une mise en réseau des choses. C'est-à-dire qu'en fait, bah, moi, je viens deux fois par an et il y a d'autres propositions, en fait, par la mise en réseau, que ce soit, bah, par exemple, dans la vallée de la Roya. Il y a une bibliothèque très active à Breil, il y a un centre d'animation et des enseignants. Donc, grâce à ce réseau-là, donc j'ai pu faire le relais et la coordination de la résidence et ça va être pérennisé. Donc, dans la vallée du Queyras, c'est pareil. Donc, il y a tout ce, on va dire, ce maillage-là qui se met en place et concrètement aussi dans la vallée du Queyras depuis toutes ces années. Il y a aussi une confiance des enseignants, mais qui, en fait, à des moments, m'appellent, me sollicitent pour d'autres projets. Donc, en fait, il y a une forme de coordination et de suite, quoi. Donc, en fait, oui, on peut dire que les graines ont été semées et puis ça pousse, quoi. Donc là, aujourd'hui, moi, je trouve que c'est un projet qui est épanoui et qui permet aussi un épanouissement et une suite aussi à la galerie ambulante, quoi. Et que des artistes ont envie aussi d'aller dans ces territoires pour faire des résidences, travailler avec les gens, les publics. Donc pour moi, on va dire que la suite, elle a été là aussi, quoi.
Merci beaucoup Stéphane. En tout cas, je tiens à préciser que la galerie ambulante est un projet formidable. J'espère que tout le monde en a pris conscience. Et la galerie Territoires Partagés est une galerie de référence à Marseille qui a une programmation artistique remarquable. Je vous dis au revoir, je vous remercie à nouveau Stéphane. Vous pouvez réécouter, télécharger cette émission sur le site radio.cnfpt.fr. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Merci.
La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.